France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Un entretien sur France 2 et TF1, le premier du genre d'ailleurs depuis le 14 juillet dernier pour sans doute un tour de vice présidentiel. Le chef de l'État qui présidait hier matin un conseil de défense entièrement consacré à la crise sanitaire devrait annoncer ce soir de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer la deuxième vague de Covid-19 qui frappe en ce moment le pays. Stéphane Robert.
La prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir constitue le point d'orgue d'une séquence commencée la semaine dernière. Avec un premier message du ministre de la Santé sur la situation qui se dégrade jeudi, le Premier ministre a poursuivi en début de semaine pour dire à peu près la même chose. Ces ministres ont en quelque sorte préparé le terrain au chef de l'État. Ils ont fait monter la pression avec dans l'idée de créer une attente et d'ouvrir une fenêtre médiatique pour donner à son message une diffusion et une portée maximale. Alors maintenant, pourquoi faire ? Son idée, explique un de ses proches, est de créer un électrochoc dans l'esprit des Français. Va-t-il annoncer un couvre-feu ou autre chose ? Ça, on verra. En attendant, son intention est de faire comprendre qu'on ne pourra pas éviter la deuxième vague épidémique, mais que si tout le monde en prend conscience et se mobilise, on pourra peut-être éviter un reconfinement généralisé. Et ça, c'est essentiel, poursuit ce proche, car on ne peut pas se permettre de bloquer à nouveau l'économie du pays. Toute la difficulté de l'exercice auquel va se livrer le chef de l'État ce soir consiste donc, encore une fois, à délivrer ce double message. D'un côté, faire comprendre que l'heure est grave, qu'il faut se protéger, que les hôpitaux seront bientôt saturés, mais en même temps qu'il ne faut pas que la vie s'arrête, pas plus que l'économie du pays. Des messages en apparence contradictoires qui, jusqu'ici, n'ont pas permis de lutter efficacement contre une nouvelle progression de la pandémie.
Ces derniers jours, on a effectivement entendu les voix de nombreux professionnels demander à l'exécutif de les laisser travailler malgré tout. On pense aux restaurateurs et aux patrons de bars, mais pas seulement. D'autres prises de parole alertent aussi sur la situation des plus précaires, situation qui se dégrade avec, dans les départements, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux à faire des demandes de RSA, le revenu de solidarité active. Les associations qui viennent en aide aux plus démunis, mais aussi le Conseil d'analyse économique affirme qu'il faut désormais un soutien plus franc aux plus modestes. Jean Castex, le chef du gouvernement, devrait annoncer des mesures à la fin de la semaine, sans doute samedi, sans pour autant valider une hausse des minima sociaux. Catherine Pétillon.
Les attentes sont d'autant plus fortes que les mesures en faveur des plus vulnérables ne représentent qu'environ 1% des sommes du plan de relance. Parmi les associations et chercheurs qui travaillent sur les plus pauvres, deux demandes font consensus : augmenter les minima sociaux et ouvrir le RSA aux moins de 25 ans, la catégorie la plus touchée par la pauvreté, mais éligible à aucun droit. Or, en début de semaine, Jean Castex a refermé la porte à ces options. Voilà qui redit l'opposition du gouvernement et probablement avant tout celle d'Emmanuel Macron aux prestations monétaires. On se souvient de sa sortie sur le pognon de dingue que représentaient les aides sociales, argent qui permet néanmoins, rappelait l'adresse il y a quelques jours, de faire passer la pauvreté de 40 à 19,6% de la population. Le gouvernement lui plaide pour des mesures d'aide ponctuelles et un soutien aux mesures d'insertion. Seulement voilà, faute d'emploi, vers quoi insérer, demandent les associations. Le gouvernement ne change pas de position ni d'approche de la pauvreté alors que le contexte est complètement bouleversé, déplore-t-elle. La question, c'est jusqu'à quel point est-ce politiquement tenable au vu de la dégradation accélérée de la situation sociale.
20 millions d'euros pour les 22 000 policiers qui travaillent la nuit. Le ministre de l'Intérieur évoque un geste inédit du gouvernement. Avec d'autres, cette annonce vise à apaiser le ras-le-bol des forces de l'ordre dont un agent a encore été pris pour cible il y a quelques heures. Il a été renversé pendant un contrôle d'une voiture volée à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Son pronostic vital est engagé, indique ce matin la police. Alexandre Loukachenko n'ayant manifesté aucune volonté d'organiser une élection libre et équitable. Il fera bientôt l'objet de sanctions européennes. Décision prise en début de semaine par les chefs de la diplomatie des 27. Le président biélorusse, qui s'accroche au pouvoir, continue de répondre par la violence aux demandes de l'opposition qui réclame toujours sa démission. Alexandre Loukachenko, qui a toutefois tenu à rencontrer en personne le week-end dernier une douzaine de ses adversaires récemment placés en détention. Éric Biagala.
La scène est à vrai dire surréaliste. Quelques images en ont été montrées à la télévision d'État. Le président biélorusse a tablé avec la fine fleur de ceux qu'il appelle normalement des criminels et qu'il a fait embastiller. Le banquier Viktor Babariko, par exemple, ou le blogueur Sergei Tikhanovsky, lesquels avaient osé vouloir se présenter contre lui à la présidentielle. 12 opposants sortis de leur cellule et réunis au siège du KGB à Minsk samedi pour discuter pendant près de 5 heures avec Alexandre Loukachenko. Les détails de l'entrevue ont commencé à filtrer hier quand les participants ont pu en parler avec avec leurs avocats respectifs. Tikhanovsky a été autorisé à téléphoner à sa femme, Svetlana, en exil en Lituanie, et qui fait aujourd'hui office de chef de file de l'opposition. D'autres ont été conduits au bain, deux de ses opposants ont même été libérés, et l'un d'eux semble même avoir reçu la consigne de rédiger quelques propositions de modification constitutionnelle, rapporte son avocat. Manifestement, Loukachenko semble donc disposé à une sorte de transition politique, mais à sa main, discutant avec une opposition captive, il n'a d'ailleurs pas hésité à faire arrêter ce week-end plus de 700 personnes supplémentaires qui manifestaient pacifiquement contre lui.
Des brouillards, des nuages et des averses sur les trois quarts du pays. Il neigera sur la plupart des reliefs. Le ciel sera dégagé sur les bords de la Méditerranée. Les températures iront, elles, cet après-midi de 11 à 20 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
À réécouter sur francemusique.fr.